La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Daniel Defoe n'a pas été d'abord un romancier. Il a même, sa vie durant, cherché à cacher la paternité de son Robinson Crusoe, qui fut d'ailleurs son premier véritable roman, publié à l'âge de 59 ans après une vie de marchand, d'espion, de journaliste et de pamphlétaire. Le succès de ce livre et le mythe qu'il va devenir cachent la forêt de ses autres écrits, comme Heure et malheur de la fameuse Moll Flanders ou Le journal de l'année de la peste, ainsi que nous l'a raconté hier Baudouin Millet au cours de notre émission biographique, à retrouver si vous le souhaitez en téléchargement. Demain, c'est une lecture politique, sociale et économique du mythe de Robinson que nous vous proposerons. Ce sera avec Jean-Paul Angélibert, professeur de littérature comparée à l'université Bordeaux-Montaigne. Enfin jeudi, une émission sans lien avec Robinson. Nous parlerons des femmes oubliées de l'histoire littéraire. Ce sera avec Éric Dussert ainsi que Frédéric Magé. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pour continuer sur notre lancée d'hier à analyser ce mythe de Robinson, initié par Defoe et repris par de nombreux auteurs depuis, nous sommes avec vous, Daniel Dubois-Marcoing, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en littérature à l'université d'Artois à Arras. Vos recherches portent sur la littérature jeunesse, sur le théâtre jeunesse aussi. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur la Robinsonnade enfantine dans la France du 19e siècle. C'était pour votre thèse de doctorat. Et puis en 2017, dans le numéro 41 des Cahiers Robinson, vous avez publié un texte intitulé « Robinson, le roman de la mauvaise conscience ». J'aimerais commencer avec vous cette conversation sur cette idée justement de la mauvaise conscience de Robinson, dont on peut dire qu'il est un personnage qui perd d'entrée de jeu son innocence et qui est très vite plongé dans les affres de cette mauvaise conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi Daniel Dubois-Marcoing ?
Alors oui, dans le texte d'origine, Robinson Crusoe, on a un Robinson qui n'a qu'un désir, c'est courir les mers, alors que son père aurait voulu qu'il continue ses propres activités de négociant.
Comme tous les pères.
Alors le Robinson, le fils, va s'embarquer sur les mers, bon, connaître les pires aventures, et jusqu'au naufrage sur cette île, et c'est le récit de son aventure en tant que Robinson isolé, naufragé isolé. Alors c'est vrai que la mauvaise conscience va traverser le roman de Daniel Defoe. Robinson s'accuse d'avoir provoqué la mort du père, on l'apprendra à la fin de la première partie du roman. Cette idée de mort du père va traverser aussi l'ensemble des Robinsonnades. Alors, sous diverses formes. Disons que dans les Robinsonnades qui vont se multiplier sous la Restauration et sous le Second Empire, chez les auteurs catholiques et dans la réaction catholique tout plus précisément, le père va parfois devenir le roi qu'on a laissé mourir. Et ce sera au petit Robinson de racheter ce manquement des pères.
Ça, c'est un motif, la perte du père et puis plus globalement la perte des parents qu'on retrouve chez Robinson, mais qui semble initier un petit peu une tradition dans la littérature jeunesse aussi.
Oui, bah, de toute façon, disons qu'il ne peut pas y avoir d'aventure à proprement parler, si l'enfant reste au sein de la famille entre père et mère. Donc, généralement, dans le roman d'aventure est inauguré par la perte du père d'une manière ou d'une autre.
Alors, avant d'aller plus loin, on va écouter justement le début de Robinson Crusoe, où il est question de cette relation justement entre le jeune Robinson de 19 ans et son père.
J'avais deux frères. L'aîné, lieutenant-colonel en Flandre d'un régiment d'infanterie anglaise, autrefois commandé par le fameux colonel Lockhart, fut tué à la bataille de Dunkerque contre les Espagnols. Que devint l'autre ? J'ignore quelle fut sa destinée. Mon père et ma mère ne connurent pas mieux la mienne. Troisième fils de la famille, et n'ayant appris aucun métier, ma tête commença de bonne heure à se remplir de pensées vagabondes. Mon père, qui était un bon vieillard, m'avait donné toute la somme de savoir qu'en général on peut acquérir par l'éducation domestique et dans une école gratuite. Il voulait me faire avocat, mais mon seul désir était d'aller sur mer. Et cette inclination m'entraînait si résolument contre sa volonté et ses ordres, et, malgré même toutes les prières et les sollicitations de ma mère et de mes parents, qu'il semblait qu'il y eût une fatalité dans cette propension naturelle vers un avenir de misère. Mon père, homme grave et sage, me donnait de sérieux et d'excellents conseils contre ce qu'il prévoyait être mon dessein. Un matin, il m'appela dans sa chambre, où il était retenu par la goutte, et me réprimanda chaleureusement à ce sujet. « Quelle autre raison as-tu, me dit-il, qu'un penchant aventureux, pour abandonner la maison paternelle et ta patrie, où tu pourrais être poussé, et où tu as l'assurance de faire ta fortune avec de l'application et de l'industrie, et l'assurance d'une vie d'aisance et de plaisir. Il n'y a que les hommes dans l'adversité ou les ambitieux qui s'en vont chercher aventure dans les pays étrangers, pour s'élever par entreprise et se rendre fameux par des actes en dehors de la voie commune. »
Une lecture par Michael Cohen. Alors, ce père de Robinson, c'est un bon vieillard. Il a l'air très sympathique, très gentil avec son fils. Mais les jeunes gens ne comprennent pas leurs parents, semble nous dire Daniel Defoe, c'est ça ?
Oui, bon, et son roman, Robinson Crusoe, finalement, devient même un peu... prend la dimension d'un mythe, hein, je reprends l'idée de Michel de Certeau, et c'est le mythe d'un monde sans père. En fait, l'île du naufragé va permettre aux jeunes garçons, parfois aux jeunes filles, de prendre possession de cette terre qui s'offre à lui ou à elle. Voilà. Sachant que, de toute façon, Robinson porte aussi toujours sur ses épaules le monde qu'il a laissé derrière lui et ce que lui ont apporté ses parents, son éducation et la société dans laquelle il vivait.
Et d'ailleurs, à ce sujet, on remarque que Robinson, quand il arrive sur l'île, n'est pas tout à fait sans rien, comme le sera plus tard les Robinson de Jules Verne, parce que l'épave du bateau par lequel il est arrivé, et il ne reste plus personne évidemment sur ce bateau, tous les marins sont morts, mais l'épave est encore là et elle est pleine de trésors finalement. Et elle est pleine de ce trésor qui est ce qui reste de la civilisation. Est-ce que ça n'est pas ça l'héritage précisément du père, Daniel Dubois-Marcoin ?
Oui, bien sûr, je dirais c'est l'héritage concret du père. Robinson va puiser des outils, va puiser tout de... Non seulement des outils, mais aussi, par exemple, des grains de blé. Enfin, il va, à son insu, rapporter quelques grains de blé sur l'île, ce qui lui permettra, des années plus tard, de pouvoir faire du pain. Autrement dit, il n'arrive pas démuni, il arrive avec des outils pour s'en sortir et pour entamer l'aménagement, la prise de possession de cette île.
Donc, alors, ça signifie quoi ? Qu'il y a transmission, quand même ?
Oui, de toute façon, il n'y a jamais... un enfant n'est jamais vierge des savoirs qu'on lui a transmis. Et je dirais, peut-être d'une manière encore plus symbolique, il y a un motif qui est souvent repris dans la Robinsonnette pour la jeunesse, c'est celui d'un Robinson précédent qui a déjà vécu sur l'île et qui est mort lorsque l'enfant Robinson arrive, mais dont il retrouve des traces et qu'assez souvent, là aussi, de façon tout à fait symbolique, il va ensevelir dans une grotte, et c'est la reprise un peu du motif du texte d'origine, hein, où Robinson ensevelit le bouc qu'il a trouvé dans une grotte, l'ensevelit dans un sable parfaitement sain, qui va le préserver, le momifier en quelque sorte.
Donc on ne vient pas de nulle part, même quand on est seul jeté sur une île déserte, on a toujours un héritage et pourtant tout est à construire, tout est à réinventer.
Oui, alors ça ce sera notamment le challenge que Jules Verne va lancer à ses jeunes lecteurs, et tout particulièrement dans l'île mystérieuse. Alors là, le Robinson n'est plus tout seul, c'est une robinsonnade en groupe, et le jeune garçon, le jeune Robinson, est accompagné d'un tuteur, cette fois-ci non plus du père. Il y a un déplacement hors la sphère familiale, et le Robinson est accompagné de l'ingénieur Cyrus Smith, qui a pour ambition, à partir de rien, puisqu'il a fallu délester le ballon de tout ce qu'il faisait poids, à partir de rien, eh bien, tout recommencer sur l'île grâce au savoir, et cette fois-ci non plus un savoir artisanal tel celui dont disposait le Robinson d'origine, un savoir, disons, d'industriel, le savoir acquis dans les grandes écoles d'ingénieurs, donc créées par Napoléon III, et puis qui dégageront progressivement l'élite républicaine.
Mmh. On aura l'occasion de revenir demain, je pense, sur ce Robinson-là. Pour revenir au Robinson de Defoe, qui est donc, on peut l'interpréter comme ça, on peut l'interpréter de mille manières, le roman de l'émancipation de la famille, mais avec un lien qui reste par rapport aux parents. Peut-on dire qu'il s'agit là d'un roman d'initiation parce que le jeune Robinson, je le disais tout à l'heure, a 19 ans quand ses aventures commencent. Il n'est donc plus tout à fait quand même un enfant.
Oui, c'est vrai. Mais les éducateurs auteurs pour la jeunesse vont souvent rajeunir le jeune Robinson. Et en cela, ils suivent un petit peu les prescriptions de Rousseau, les prescriptions qui figurent dans l'Émile, au livre 3, où Rousseau considère que le seul livre que puisse lire un jeune enfant de 12 ans, l'Émile à 12 ans à ce moment-là, c'est l'âge de la force, donc le seul roman qu'il puisse lire, c'est le Robinson Crusoe. Alors toutefois, en le bornant de manière très sévère, le roman devra démarrer à l'arrivée sur l'île et devra se terminer au départ, enfin lorsque Robinson est amené à quitter l'île.
Donc la deuxième partie du Robinson
elle est complètement
de Defoe n'est pas intéressante pour Rousseau, pour quelle raison ?
Ben, Rousseau parle avec beaucoup de mépris d'un fatras romanesque. Par ailleurs, l'île est le, enfin il retient l'île parce qu'elle est le lieu de l'isolement. Et le lieu, justement, de formation pour le jeune Robinson. Hein, une formation naturelle, voilà, comme il dit.
On va écouter justement un extrait de l'Émile de Rousseau, où il est donc question de Robinson.
Puisqu'il nous faut absolument des livres, il en existe un qui fournit, à mon gré, le plus heureux traité d'éducation naturelle. Ce livre sera le premier que lira mon Émile. Seul, il composera durant longtemps toute sa bibliothèque et il y tiendra toujours une place distinguée. Il sera le texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront que de commentaires. Il servira d'épreuve durant nos progrès à l'état de notre jugement. Et tant que notre goût ne sera pas gâté, sa lecture nous plaira toujours. Quel est donc ce merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? Est-ce Pline ? Est-ce Buffon ? Non, c'est Robinson Crusoe. Robinson Crusoe dans son île. Seul, dépourvu de l'assistance de ses semblables et des instruments de tous les arts, pourvoyant cependant à sa subsistance, à sa conservation, et se procurant même une sorte de bien-être, voilà un objet intéressant pour tout âge et qu'on a mille moyens de rendre agréable aux enfants.
Une lecture par Michel Butor, figurez-vous, Daniel Dubois-Marcoing. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Eh bien, ce qu'on disait déjà précédemment, c'est-à-dire que c'est le moment où Robinson peut se contenter de sa solitude dans l'île. Émile n'a que 12 ans. Il ne sera pas, Il ne sera pas pris de désir de la rencontre de quelqu'un d'autre, et précisément d'une jeune fille à aimer. Et ça va être évacué, ce motif-là, enfin de la rencontre de la jeune fille, il va être évacué de toutes les Robinsonnades pour la jeunesse.
Donc, il n'existe pas de Robinsonnade amoureuse.
Pas pour les enfants, enfin, pas vraiment pour les enfants, encore que... On pourrait. Il y a eu des développements romanesques, disons, qui abordaient cette question de la rencontre amoureuse, enfin, de façon très euphémisée, très atténuée. Et c'est notamment la continuation du Robinson suisse par Madame de Montolieu.
Bon. Parce que l'initiation, quand même, souvent passe par cela. Mais c'est pas tellement cette initiation-là qui intéresse les auteurs de Robinsonade.
Pour des raisons de décence. Notamment dans tout le 19e siècle, enfin bon, qui a produit des centaines de réécritures de Robinson Crusoe. Et non, on évacue ce motif-là. Et encore une fois, le Robinson est censé avoir 12 ans, peut-être un peu plus, mais n'être pas encore en état de prendre une épouse.
Donc avec l'Émile, avec Jean-Jacques Rousseau, on va entrer dans une lecture de Robinson Crusoe qui est une lecture éducative. Ça va quand même très fortement marquer l'œil qu'on porte sur ce texte-là, Daniel Dubois-Marcoing.
Oui, disons que les adaptations de Robinson Crusoe pour la jeunesse, elles existent par centaines au XIXe siècle. Les adaptations donc du Robinson pour la jeunesse et les réécritures qu'on appelle des Robinsonnades vont un peu biaiser la réception que l'on a du roman de Defoe. Hein, et nous amener à l'appréhender comme un roman d'éducation.
Ce qui n'est pas pour vous au départ.
Ça l'est en partie, bien sûr. Mais je crois que la trajectoire de Robinson dans le texte de Defoe est surtout une trajectoire de repentance, justement, par rapport à la mort provoquée du père. C'est aussi un moment de retraite, mais ça, on va le retrouver dans la littérature de jeunesse, bien entendu, un moment de retraite qui lui permet de se trouver lui-même, de réfléchir au sens de sa vie, chez ce personnage qui est marqué, bien sûr, par le puritanisme.
Oui. Et donc ça, c'est à tous les âges, ça n'est pas forcément, et même pas tellement au moment de la jeunesse, qu'on se retourne pour réfléchir sur sa vie.
Disons que dans les Robinsonnades catholiques notamment, celle de la monarchie de Juillet, celle du Second Empire, au début du moins des écritures féminines, l'enfant va quand même s'interroger sur lui-même. Va aussi faire ce cheminement de repentance.
Hein, c'est le cas. C'est forcément une punition, la relégation. Ça peut être vécu au départ comme l'avènement de la liberté, mais très vite, ça devient une punition, presque dans toutes les Robinsonnades.
Alors, ça dépend, je dirais. Ça dépend notamment s'il s'agit d'une fille, d'une Robinson ou d'un Robinson. Assez souvent, l'expérience de l'isolement sur l'île. Qui est réservé aux garçons, justement, est un petit peu un cheminement, faire le repentir par rapport à une faute commise, et notamment la faute qui est souvent mise en avant, c'est l'insubordination, la désobéissance. Et les garçons sont réputés désobéissants.
C'est vraiment aller au coin, de partir sur l'île.
Aller au coin. Bon. En revanche, chez les filles, et je pense notamment au Robinson des Demoiselles, par opposition au Robinson de 12 ans, qui avait été écrit quelques années plus tôt, dans le Robinson des Demoiselles, elle est amenée à vivre cet épisode robinsonien, bien malgré elle. Et en fait, là, c'est une jeune fille qui, d'emblée, est pleine de vaillance, du fait de son éducation, et se montre en fait beaucoup plus vaillante même que les adultes, beaucoup plus vaillante que sa mère qui est morte en la mettant au monde, beaucoup plus vaillante que son père qui en est toujours resté valétudinaire, beaucoup plus vaillante qu'une autre Robinson qui a échoué aussi, elle, sur l'île lors du même naufrage, et qui finalement, par manque de force... par manque de force d'âme notamment, et retourner quasiment à l'état sauvage.
Mais alors qu'est-ce que ça nous dit sur la vision du monde de ces auteurs et aussi sur l'état d'esprit du 19e siècle, ce que vous venez d'expliquer sur le fait que les filles qui sont plus raisonnables ou réputées comme telles vivent la Robinsonnade comme une façon de racheter les manquements des adultes?
Alors, ce que je viens d'évoquer, le Robinson des Demoiselles, est écrit en 1835 par Madame Voyer. Et c'est un moment de prise de conscience, enfin du bouleversement du monde. Et surtout, on commence à le dire, à trouver les mots pour le dire, ce bouleversement. Et les auteurs, comme Madame Voyer, qui a écrit aussi Les Orphelines de Moscou, qui met en scène une institutrice, les auteurs semblent s'appuyer sur les jeunes filles pour ramener et défendre les valeurs qui ont été menacées par les événements révolutionnaires.
Donc il faut toujours le lire avec l'histoire du moment où ont été écrites ces Robinsonnades.
Oui. C'est complètement marqué par l'époque où se situe l'écriture des textes. Naturellement, les Robinsonnades sont toutes marquées par ça.
Donc les femmes ont toujours une vision davantage chrétienne de la Robinsonnade, ou c'est simplement les exemples que vous venez de donner là?
Non, y a des Robinsonnades écrites par des hommes et qui s'inscrivent tout à fait dans une perspective chrétienne, et parfois même beaucoup plus désespérée ou plus rude.
À commencer par Daniel Defoe lui-même.
Oui, et j'évoquerai aussi, par exemple, Ernest Fouinet, qui écrit Le Robinson des Glaces. Alors là, il met en scène justement un jeune garçon insubordonné et qui va vivre un véritable calvaire, un cheminement d'expiation, cette fois-ci, dans la région des pôles. Mm-hmm. Et là, c'est une Robinsonnade très dure, puisque Robinson connaît une véritable leçon de ténèbres à travers ce séjour sur l'île, cette région de glace.
Je commençais alors à considérer sérieusement ma condition et les circonstances auxquelles j'étais réduit. Je couchais par écrit l'état de mes affaires, non pas tant pour le laisser à mes successeurs, car il n'était pas probable que j'eusse beaucoup d'héritiers, que pour libérer mon esprit qui s'y fixait sans cesse et en était comme accablé. Ma raison commençait à se rendre maîtresse de mon abattement. Je voulus la réconforter de mon mieux, et je fis un état des biens et des maux, afin de distinguer mon cas d'un cas plus malheureux encore. Je dressai cet état avec l'impartialité d'un homme qui voudrait faire un calcul fidèle de ses dettes et de ses créances, mettant en regard les avantages que j'avais et les misères qui m'accablaient.
Je suis jeté dans une affreuse île déserte, sans aucune espérance d'en sortir.
Mais je suis en vie, et je n'ai pas été noyé comme l'a été tout l'équipage du vaisseau.
J'ai été décimé et séparé en quelque manière du reste du monde pour être misérable.
Mais j'ai été séparé du reste de l'équipage pour être soustrait à la mort. Et celui qui m'a délivré de la mort peut aussi me délivrer de cette condition.
Je suis séparé de l'humanité et banni de toute société humaine.
Mais je ne souffre pas de la famine, ni ne péris dans un lieu stérile qui ne produit rien pour la nourriture.
Je n'ai presque point d'habits pour me couvrir.
Mais je suis dans un climat chaud, où je ne pourrais presque point porter d'habits, quand même j'en aurais.
Une lecture par Michel Bouquet. Alors évidemment, arriver comme ça sur une île, c'est en partie une utopie, c'est la promesse, même si au départ c'est douloureux, de créer soi-même une nouvelle société. Et l'utopie peut être aussi attirante, c'est peut-être ça qui plaît aussi dans la lecture des Robinson et aussi des Robinsonnades, et c'est peut-être ça qui plaît aussi aux enfants, c'est cette tension entre la liberté possible et en même temps une espèce de grande de douleur, une espèce de grande tristesse de la solitude, Daniel Dubois-Marcoing.
Oui, bien sûr. Et je dirais que parfois les auteurs vont essayer de justement de transformer le schéma d'origine de façon à éviter aux enfants, aux jeunes enfants en particulier, ce sentiment très douloureux de solitude. Et parmi les réécritures, il y en a une assez, assez amusante finalement, c'est celle de Madame de Genlis, L'île aux enfants. Mmh. Ou alors là, Madame de Genlis, hein, bon, là, on sait que ça a été qu'elle a assuré l'éducation de futur Louis-Philippe. Madame de Genlis imagine une Robinsonnade pour ses jeunes enfants au sein même du jardin, voilà, du domaine familial. Et elle est aidée en cela par les domestiques qui jouent le jeu. C'est un jeu de Robinsonnade en fait. Et les enfants vont être amenés, avec l'accompagnement des domestiques et d'adultes nains, à mettre en place une petite utopie familiale qui va bien fonctionner, mais qui, hélas, va devoir va éclater, si vous voulez, du fait de ce qu'elle nomme les événements désastreux de 1792. Et on sait que Madame de Genlis a dû émigrer hein, du fait de la terreur. Son mari est mort sur l'échafaud et pas mal de personnes de sa famille aussi.
Donc là, on est vraiment dans la tradition de Jean-Jacques Rousseau, de Robinson éducateur, parce qu'il s'agit de jouer une petite pièce de théâtre où les enfants sont amenés à être sur une petite île, mais non loin de la maison, toujours protégés par le regard des parents. C'est ça qui est agréable quand on est un enfant, c'est d'aller se cacher dans une cabane, mais si la cabane n'est pas trop loin de la maison des parents. Et donc là, on est vraiment dans l'aspect éducatif de ce qui devient une espèce d'épreuve de survie, une espèce de façon de se projeter pour les enfants dans ce que sera leur vie plus tard.
Oui, de se projeter, mais en l'occurrence ici, de manière tout à fait protégée. Et bon, je pense que cela correspond effectivement aux désirs et aux angoisses en même temps des jeunes enfants, des enfants, 7-8 ans. C'est de vivre des aventures, mais à l'abri quand même, à l'intérieur du domaine familial.
Peut-être que les adultes sont un peu comme ça aussi. Il y a le Robinson suisse, vous en avez dit un mot tout à l'heure, mais c'est un petit peu la même chose. Ça, c'est Robinsonner avec ses parents, le
voilà,
Robinson suisse.
Oui, là, c'est une autre forme de domestication de la Robinsonnade, hein, puisque le pasteur Huys va imaginer justement un naufrage, mais cette fois-ci, un naufrage en famille. Alors le père, la mère et leurs quatre fils vont arriver sur une île déserte et sur laquelle ils vont finalement découvrir toute une flore, une faune qu'ils vont apprendre à connaître et qu'ils vont apprendre à exploiter aussi. Donc ça devient un véritable magasin de curiosité. Disons que cette Robinsonnade s'inscrit tout à fait dans l'esprit encyclopédique de l'époque. Voilà.
Alors, il nous reste quelques minutes avant la chronique. J'aimerais vous faire parler quand même du langage de Daniel Defoe. C'est pas anodin la manière dont ont été écrits ces textes. Enfin, celui de Robinson Crusoe et de Defoe est traduit ensuite en français parce que c'est peut-être aussi leur sobriété, leur simplicité qui a permis aux enfants de se l'approprier. Comment caractériser ce langage, cette langue de Daniel Defoe?
Alors disons que le texte d'origine est certainement écrit dans une langue beaucoup plus complexe que celle qu'on offre à lire aux enfants. Et dans toutes les préfaces du 19e siècle des réécritures, enfin des adaptations de Robinson Crusoe, les auteurs, traducteurs, vont faire un effort de simplification. Et c'est vrai que le texte prend acquiert une simplicité d'évangile,
donc
presque.
Donc il y a un biais quand même dans la lecture en français de
oui,
ce
certainement.
Texte.
Oui, certainement. Oui. Le Robinson de Faux est toujours en train de s'interroger. C'est toujours, il y a parfois des interrogations qui restent sans réponse, qui restent ouvertes. Il y a des ambivalences. Et tout cela tend à disparaître dans les traductions qu'on offre à la jeunesse, du moins en France.
Alors il y a beaucoup de descriptions qui sont très méticuleuses, en particulier les descriptions des opérations manuelles, donc comment Robinson creuse une maison dans la roche, il l'entoure d'une palissade, Conrad, il fabrique un bateau alors qu'il ne parvient pas d'abord à transporter jusqu'à la mer. Daniel Defoe nous explique très bien cela sur d'ailleurs plusieurs pages. Et c'est passionnant, c'est ça qui est étrange, c'est que ça paraît comme ça trivial, mais c'est très intéressant. Peut-être est-ce parce que le réalisme avec lequel il décrit tout cela, et un petit peu documentaire là-dedans, donne envie finalement au lecteur, et peut-être au lecteur adolescent ou au lecteur enfant, de se mettre au travail et lui aussi de construire un bateau en creusant dans un rondin. Est-ce que ça joue ça aussi selon vous?
Oui, bah, très certainement. Et du reste, là aussi, les adaptateurs l'ont bien pressenti. Et par exemple, dans les réécritures, dans les adaptations de Robinson Crusoe, il y en a qui sont scolaires, à usage scolaire. Le Robinson devient et décrit comme de plus en plus comme industrieux. Mmh. Et ça figure même dans le titre de certaines adaptations.
Mmh. Ça, c'est aussi le 19e siècle.
Voilà, hein. Bien sûr. Alors, et d'industrieux pendant longtemps, disons qu'il deviendra beaucoup plus industriel, on va dire, à partir de la fin du Second Empire et notamment sous la plume de Jules Verne.
Allez, on va poursuivre avec vous cette analyse de Robinson Crusoe, Daniel Dubois-Marcoing, juste après la traditionnelle chronique dans Compagnie des Revues.
La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et aujourd'hui en compagnie d'Étienne de Montetti, directeur du Figaro Littéraire. Bonjour Étienne, merci d'être
Bonjour
avec
Mathieu.
Nous. Vous êtes un lecteur, vous, de Robinson Crusoe?
Oui,
dans ses différentes versions.
Je suis un lecteur, j'ai été un lecteur enfant, passionné par le caractère aventureux. Et je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans et j'étais très intéressé par les diverses interprétations que vous en donniez, madame, parce que le relisant il y a quelques années, j'étais tout à fait frappé par l'ode au libéralisme philosophique, politique et économique. Et Defoe écrit au 18e, le moment où ces notions arrivent en Europe par l'Angleterre. Et c'est avec la reconstitution, par l'initiative individuelle de tout un monde. À partir de quoi la sociabilité par l'arrivée de vendredi va devenir possible, m'a énormément intéressé. Mmh. Et quand on a quitté l'âge de l'enfance et qu'on relit ce livre avec effectivement le nombre de détails que Defoe donne, que ce soit la tempête, hein, ce monde des eaux dont on est, vous parliez du sacrifice du bouc, la tragédie évidemment religieuse, la reconstitution jusqu'au calendrier, la reconstitution de la société dans ses moindres détails, ça en fait un livre effectivement d'une richesse absolument insoupçonnée. Il faudrait le lire 10 fois dans sa vie, c'est peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs madame, pour en dénicher toute la richesse inépuisable.
Donc finalement le journaliste au Figaro que vous êtes voit une justification naturelle presque au libéralisme dans Robinson Crusoe.
Elle naît à ce moment-là et l'expression littéraire, c'est Defoe qui l'a fait. Et cette lecture-là est très intéressante, elle est assez nouvelle. À l'époque, on vit en société, on a avec la hiérarchie politique, avec Dieu aussi, un certain rapport, peut-être un peu contraignant. Et là, tout d'un coup, il y a une liberté sous la forme d'un naufrage, d'une révolution, disons-le, mm-hmm. qui fait que la société change et qu'on reconstruit ex nihilo une société. C'est très intéressant.
Alors, n'anticipons pas trop tout de même sur l'émission de demain où on parlera notamment de ces questions-là. Vous venez nous parler aujourd'hui, Étienne de Montetti, du livre « La vraie vie de Vinteuil » qui paraît chez Grasset sous la signature de Jérôme Bastianelli.
Alors c'est l'exact inverse évidemment de Robinson, il n'y a pas de société à reconstruire.
Non, la société
chez Proust,
est bien là.
Il y a une société est bien là et il faut s'y insérer. Il faut s'y insérer, c'est tout le problème de Proust et de son narrateur. Dans une de ses magistrales conférences, le proustien Bernard de Fallois avait une notation très intéressante sur la différence entre le monde de Balzac et le monde de Proust. Des personnages de Balzac, il disait, on se demande ce qu'ils font, et des personnages de Proust, on se demande ce qu'ils sont. Et effectivement, c'est le cas pour Vinteuil, dont on ne connaît quand on lit la recherche que la sonate et puis aussi la fille, mais sans que Proust donne une guerre de détails supplémentaires. Il nous dit simplement que c'était un modeste professeur de musique qui habitait du côté d'Illiers et qui allait devenir un musicien de légende par la seule grâce d'un morceau de musique, d'une sonate qui allait être essentielle dans le coup de foudre entre deux personnages essentiels, Swann et Odette. Mais on n'en savait guère plus. Et c'est alors que le musicologue Jérôme Bastianelli a relevé le défi d'inventer de manière absolument complète la vie de ce personnage clé de la recherche.
Alors quel portrait fait-il de Vinteuil ?
Ah ben c'est très intéressant. Il en fait un personnage complet, lui donne un prénom. Après tout, Vinteuil n'a pas de prénom chez Proust, il l'appelle Georges. Il nous raconte une histoire un petit peu complexe. Il était le fils d'un prêtre, très musicien, qui jouait de l'orgue. Et puis il nous raconte, à Versailles d'ailleurs, la naissance, l'attrait de la musique chez le petit Vinteuil. Il donne des détails sur la fille de Vinteuil, dont Proust nous dit qu'elle a une vie libre et scandaleuse. Il nous raconte que c'est sa fille qui s'est occupée de sa postérité, notamment des mémoires de Vinteuil, dans lesquelles Proust aurait puisé pour parler de Vinteuil dans son livre. Mmh. Et surtout, il fait rentrer dans son livre tout ce que Paris a compté de musiciens de l'époque, César Franck, dont il fait un grand ami de Vinteuil, mais aussi Fauré, Massenet, Saint-Saëns. Bref, il insère ce personnage aux trois quarts imaginaires dans la véritable vie artistique et politique du 19e. Il lui invente une œuvre prolifique dont il donne des détails, il raconte le contexte de son élaboration, l'accueil qui en a été fait. Dans La prisonnière, Proust, par exemple, fait une petite allusion à la découverte par Vinteuil, qui est un des parangons de la musique à la française. Vinteuil va découvrir Wagner, qui arrive à Paris à ce moment-là. Et bien Bastianelli, va raconter par le menu l'irruption tonitruante de la musique de Wagner à Paris et ce qui a pu s'en suivre. Et le romancier est très, très habile, très astucieux, parce qu'il va très loin dans l'art de la vraisemblance. D'abord, il connaît très très bien Proust. Et puis surtout, il va insérer les fils de son récit imaginaire dans la vraie trame de la recherche, dans ceux de la correspondance aussi de Proust. Et vraiment, on s'y méprend. On est dans quelque chose qui ressemble au trempe-l'œil, avec énormément de détails, sans quoi cet exercice serait raté. Il décrit très très bien, avec un grand sens de la musicologie, les œuvres de Vinteuil. Il pastiche même la presse de l'époque qui accueille les livres de Vinteuil. Et puis évidemment, il raconte des salons imaginaires de l'époque pour donner à son histoire de la substance. C'est très réussi.
Mais alors du coup, la question qu'on peut se poser, Étienne, c'est faut-il connaître Proust pour apprécier ce livre ?
Je crois pas du tout même. Parce qu'il suffit d'apprécier l'exercice d'illusion. Il y a une véritable histoire qui est là. Et finalement, au bout d'un moment, ce n'est plus Proust qui aurait donné naissance à Vinteuil, c'est Vinteuil qui aurait fourni à Proust la matière de son personnage. Autrement dit, au bout d'un moment, les deux miroirs se font face, il y a un jeu, un peu comme chez Borges, et le tour est joué, et c'est très agréable. J'ajoute, et c'est peut-être une sorte de petit bonus que Bastianelli nous donne pour que véritablement le plaisir soit complet, c'est que on connaît tous le célèbre débat entre Proust et Sainte-Beuve pour savoir si une vie suffit et permet d'expliquer une œuvre. Bastianelli va veiller tout au long de son récit à donner à Vinteuil une existence assez terne à laquelle son œuvre immense ne devrait rien. Autrement dit, cette vie de Vinteuil, grâce à Bastianelli, assure à Proust une victoire éclatante sur Sainte-Beuve, autrement dit, doit être aux anges.
La vraie vie de Vinteuil par Jérôme Bastianelli est publiée par les éditions Grasset. Merci beaucoup Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. Supplément paraissant le
jeudi.
À bientôt. Compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. Deuxième moment de notre série consacrée à Robinson Crusoe, ce personnage qui pose également la question du rapport à l'autre et à la colonisation, à travers notamment le personnage de Vendredi, dont voici la description qu'en fait Daniel Defoe.
C'était un grand beau garçon, svelte et bien tourné, et à mon estime d'environ 26 ans. Il avait un bon maintien, l'aspect ni arrogant ni farouche, et quelque chose de très mâle dans la face. Cependant, il avait aussi toute l'expression douce et molle d'un Européen, surtout quand il souriait. Sa chevelure était longue et noire, et non pas crépue comme de la laine. Son front était haut et large, ses yeux vifs et pleins de feu. Son teint n'était pas noir, mais très basané, sans rien avoir cependant de ce ton jaunâtre, cuivré et nauséabond des Brésiliens, des Virginiens et autres naturels de l'Amérique. Il approchait plutôt d'une légère couleur d'olive foncée, plus agréable en soi que facile à décrire. Il avait le visage rond et potelé, Le nez est petit et non pas aplati comme ceux des nègres. La bouche belle, les lèvres minces, les dents fines, bien rangées et blanches comme ivoire. Après avoir sommeillé plutôt que dormi, environ une demi-heure, il s'éveilla et sortit de la caverne pour me rejoindre. Car j'étais allé traire mes chèvres, parquées dans l'enclos près de là. Quand il m'aperçut, il vint à moi en courant et se jeta à terre avec toutes les marques possibles d'une humble reconnaissance qu'il manifestait par une foule de grotesques gesticulations. Puis, il posa sa tête à plat sur la terre, prit l'un de mes pieds et le posa sur sa tête comme il l'avait déjà fait. Puis il m'adressa tous les signes imaginables d'assujettissement, de servitude et de soumission pour me donner à connaître combien était grand son désir de s'attacher à moi pour la vie. Je le comprenais en beaucoup de choses et je lui témoignais que j'étais fort content de lui.
Une lecture toujours par Michael Cohen. Alors la question se pose, Daniel Dubois-Marcoing, Daniel Defoe, quel était son rapport à la colonisation? On sait qu'il s'était intéressé aux alentours des années 1719 à d'éventuels projets justement de colonisation de l'Angleterre. C'était donc quand même un petit peu dans son horizon.
Oui, effectivement. Il s'était intéressé à la colonisation de cette partie de l'Amérique centrale, enfin là où on est censé trouver de l'or.
Vers le fleuve Orénoque, justement.
Vers le fleuve Orénoque, où précisément il va faire naufrage en allant faire cargaison d'esclaves en Guinée.
Robinson, donc pas Daniel Defoe.
Pardon.
Mais c'est vrai qu'on les confond.
Assimiler l'un et l'autre, c'est vrai. Bon, mais ce qui apparaît dans le fragment qui vient d'être lu, c'est quand même l'impression d'une certaine séduction exercée par Vendredi sur Robinson. Il en dit toute la beauté, la beauté virile, la force, l'harmonie. Et je pense que dans le texte de Robinson, le rapport qui se noue entre dans le texte de Defoe, pardon, le rapport qui se noue entre Defoe et Vendredi est beaucoup moins un rapport de soumission que ce que l'on en a fait, et notamment ce que l'on en a fait à partir des gravures. Parce que il y a notamment une phrase dans le livre de Defoe, au moment où il voit pour la première fois Vendredi, il se dit que... Eh bien, c'est là il craint l'arrivée d'un intrus, mais en même temps, il la désire. Et il se dit que de Vendredi, il pourrait faire son domestique. Et puis, dans la même phrase, il ajoute « mon compagnon, mon ami, finalement ». Donc, c'est une relation beaucoup plus complexe et beaucoup moins de maître à serviteur que ce qu'on en a fait ensuite, et notamment du fait des illustrations.
Et alors, dans la perspective de la littérature enfantine, comment est-ce que les enfants peuvent voir ce rapport à l'altérité et l'interpréter? Je pense notamment aux enfants qui lisent aujourd'hui Robinson Crusoe, celui de Defoe, qui peuvent éventuellement trouver qu'il y a quand même une soumission qui n'est plus fort heureusement dans l'air du temps.
Oui, alors ça a de quoi interroger, choquer le lecteur d'aujourd'hui, très certainement. Et c'est sûr qu'on peut même voir une certaine condescendance dans le regard que Robinson porte sur Vendredi.
Et puis c'est vrai qu'il y a ces gravures dont vous parliez, notamment celle très célèbre où, c'était d'ailleurs pour illustrer l'extrait qu'on vient d'entendre, Robinson met son pied sur la tête de Vendredi.
Ce qui ne figure pas dans le texte d'origine.
Ah d'accord.
Voilà. Pour les lecteurs d'aujourd'hui, bien sûr, il y a de quoi se questionner, mais ça questionne aussi tous les adaptateurs de Robinson Crusoe depuis le départ. Dans l'une des premières, celle de Camp, à toute fin du 18e siècle, l'allemand Camp, Robinson est présenté, il arrive lui aussi sur l'île où Robinson a fait naufrage, mais il arrive... muni finalement de techniques de survie bien plus importantes que celles dont dispose le jeune Robinson.
Il y a aussi l'adaptation évidemment de Michel Tournier, où là, le titre même le dit assez bien, hein, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, ou Vendredi ou la vie sauvage pour les enfants. Le texte est quand même davantage centré justement sur Vendredi, sur la question de l'autre.
Il y a une inversion, il y a une inversion des capacités, enfin de la supériorité sur l'île, où il s'agit de survivre en disposant des technologies premières. Ce n'en dispose pas forcément le jeune Robinson.
C'est la dialectique du maître et de l'esclave.
Oui, bien sûr.
Tout à l'heure, on a parlé de la question de la bonne et de la mauvaise conscience. Robinson, ça peut être la bonne conscience. Pardonnez-moi, Vendredi, ça peut être la bonne conscience de Robinson, dans le sens où, tout de même, c'est Robinson qui le sauve d'une mort certaine, puisqu'il est poursuivi par les cannibales, il ne faut pas l'oublier. Et Robinson tue ses poursuivants pour le sauver, avant d'en faire, en effet, son esclave. Mais ça peut être aussi, comme on le disait à l'instant, la mauvaise conscience du colon qui a servi le colonisé.
Oui, c'est l'un et l'autre. Disons que là aussi, dans l'écriture, Tournier le fait, mais les écrivains du 19e siècle l'ont fait aussi, peuvent inverser la relation entre Vendredi et Robinson. En faire une relation d'amour, c'est le cas, déjà peut-être... dans le Robinson de 12 ans, qui paraît en 1815, de Madame de Beaulieu, ce jeune garçon, Félix, qui a 12 ans, va être amené sur l'île où il a fait naufrage à recueillir un bébé. Il a à peine un an et il va l'éduquer comme un père éduque son fils, jusqu'à l'arrivée sur l'île de la mère de Félix, une mère d'ailleurs que ce petit sauvé des eaux va appeler maman, ce qui installe une relation un peu curieuse, un peu problématique. Voilà. Donc,
On peut évoquer aussi peut-être le Robinson des Sables, le Robinson du désert, qui est aussi un Robinson intéressant, où là, on est plus dans la question de l'exotisme. Qui est ce Robinson du désert, Daniel Dubois-Marcoing?
Alors, c'est un Robinson qui va connaître. En fait, c'est plutôt d'ailleurs un voyage dans le nord de l'Afrique qu'une véritable Robinsonade, puisque là, tout se passe sur terre. Et là, on a affaire à un Robinson qui va être confronté à l'altérité d'une façon assez intéressante pour l'époque, puisque il va rencontrer des tribus. Et des enfants dans ces tribus qui vont se moquer de lui. Et Robinson va être en position d'être l'autre de l'autre. Et donc, bien sûr, c'est une façon de questionner tout à fait amusante et subtile la relation traditionnelle Vendredi-Robinson.
Puis il faut rappeler que c'est un livre qui paraît en 1837 et que la conquête de l'Algérie a été menée à partir de 1835. Donc là aussi, on est vraiment dans un commentaire presque de l'actualité.
Oui, c'est pratiquement un reportage, au même titre que les peintures de Delacroix à la même époque.
Vous citez encore un autre Robinson, c'est les Robinson français de la Nouvelle-Calédonie. Alors eux, ils datent un peu plus tard, 1856. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans, Édouard, orphelin de mère, embarqué par son père sur un navire en partance pour l'Australie. Et il a un petit compagnon, Édouard, c'est un petit mousse. Et donc là, c'est rapport, la découverte de ce qu'ils appellent les naturels, c'est-à-dire en fait les autochtones.
Voilà. Alors, et là, on est dans une autre partie du monde. C'est la découverte des naturels de l'Océanie, on va dire. Et au départ, dans l'ouvrage, dans le roman, on nous donne une description de la pauvre femme qui va découvrir les deux petits Robinson abandonnés et en danger. Une description physique qui n'est pas du tout positive,
non,
contrairement à celle de Defoe. On la décrit comme d'une laideur excessive, mais douée de sentiments maternels, douée d'une humanité incontestable. Et donc là, on voit qu'on a changé de regard avec la colonisation, on a changé peut-être de qui est plus avancé, de regard porté sur l'indigène, sur le naturel.
Oui. Mais alors toujours se pose quand même la question, Daniel Dubois-Marcoing, de ce que ça produit qu'un occidental plongé tout d'un coup dans un peuple qui serait très différent de lui, et ça pose la question de l'ensauvagement. Que devient l'occidental avec toute sa civilisation quand il est plongé dans un autre milieu ? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un motif qui est un motif de réflexion sur notre société à nous, sur notre manière à nous de voir le monde ?
Oui, alors l'ensauvagement, si vous voulez, le processus d'ensauvagement est évité lorsque le Robinson est accompagné d'une manière ou d'une autre d'un adulte ou de père, dispose en tous les cas d'adultes à proximité, si ce n'est pas directement accompagné.
Même si Robinson lui-même pendant longtemps était seul, oui. Il aurait pu s'ensauvager, mais ça ne lui est pas arrivé.
Bon, ça n'est pas arrivé chez les premiers Robinson, qui disposent toujours d'une éducation si solide, si vous voulez, qu'ils résistent à cet ensauvagement. En revanche, j'aimerais évoquer un texte, celui d'Orter Fournier, Les Insulaires, qui paraît en 1843, un texte qui préfigure plus de 100 ans avant Sa Majesté des Mouches de William Golding, et qui nous présente là qui développe une robinsonnade en groupe qui va aller dans le sens précisément d'un ensauvagement terrible. En fait, comme chez William Golding, le groupe de collégiens qui a fait naufrage va se scinder. Il y a le partisan d'organisation sociale sous forme de phalanstère, Nathan, qui va maintenir autour de lui un groupe d'enfants décidés à le seconder dans ce projet, dans cette utopie. Et puis, le groupe va se désagréger et les autres vont partir de façon violente et vont s'égayer dans la nature. Et justement, connaître des formes d'ensauvagement bouleversantes, pathétiques.
Oui.
Le texte est noir.
Oui. Alors il y a aussi un Robinson dont il faut parler, qui est sur ce thème de l'ensauvagement. Il est très récent, celui-là il date de 2012, mais il raconte une histoire qui est une histoire vraie. C'est le livre de François Garde, qui s'appelle « Ce qu'il advint du sauvage blanc », paru chez Gallimard en 2012. Et ça c'est l'histoire de Narcisse Pelletier, un jeune matelot français qui a été abandonné sur une plage d'Australie et retrouvé 17 ans plus tard, alors là complètement ensauvagé. Pour le coup,
oui.
Si l'on peut dire.
Ensauvagé, c'est-à-dire qu'il a perdu la mémoire de sa propre civilisation, il est frappé d'une sorte d'amnésie, et s'est rapproché, alors lui aussi par l'intermédiaire d'une figure féminine, s'est rapproché du groupe des aborigènes qui occupait la région où il a fait naufrage.
Il est même devenu un membre finalement de leur communauté.
Oui, il a été intégré dans cette société. On suppose même qu'il s'est uni à une femme et a eu des enfants. Ensuite, il est récupéré, on va dire, par des marins occidentaux, enfin européens, et il va être amené chez lui, en France.
En Vendée.
En Vendée, voilà.
Où il va devenir gardien de phare, ce qui est quand même assez beau, pour rester finalement dans une forme de solitude.
Voilà. Et il est resté d'ailleurs extrêmement taciturne, s'exprime très peu.
Et il avait perdu la parole.
Il avait perdu l'usage
du français.
Du moins l'usage du français. Et il est victime d'une amnésie seconde par rapport à la vie qu'il a vécue sur le territoire australien.
Oui. Et alors, ce que ça dit, et c'est tout de même un des grands motifs, je crois, des Robinsonnades, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'autre monde, et même le retour dans son pays d'origine n'est jamais finalement la possibilité d'une complétude. Donc que l'on soit ensauvagé, que l'on soit seul dans une île déserte ou que l'on puisse revenir chez soi, finalement, et ce sera une réponse très courte que je vous demanderai, c'est au fond la même tragédie.
Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, ça l'est là, ici.
Merci beaucoup, Daniel Dubois-Marcoing.
Thank you.
Pour aller plus loin, je recommande la lecture de votre article Robinson, le roman de la mauvaise conscience, paru dans les cahiers Robinson, numéro 41, aux presses de l'Université d'Artois en 2017. C'était La Compagnie des auteurs, une émission d'Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Alexandre Dang. Demain, troisième volet de notre série sur Robinson et les Robinsonnades, nous envisagerons le mythe du naufragé sur une île déserte sous l'angle de l'économie, de la politique et de l'écologie. Ce sera avec le professeur en littérature comparée à l'université de Bordeaux-Montaigne, Jean-Paul Angélibert. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver les lectures de poésie que nous propose chaque jour Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Idea Villarino, cette semaine, c'est Dans la barque, aux éditions La Barque. Et son traducteur, Eric Sarner, nous dit qu'elle est très populaire en Amérique du Sud. Alors, dédicace, une fois n'est pas coutume, à mon ami Bruno Aldecoseo, je raccourcis son nom processionnaire, qui habite à Montevideo. Ensemble, nous avons sillonné les routes de France. Oh, quel beau langage! Et écumé les théâtres en tournée. C'était magnifique. Bon, un peu sérieux. L'amour. Un oiseau chante pour moi, et moi pour lui. Me piaille à l'oreille, et je piaille à la sienne. Il m'écorche et je le poignarde. Il me déchire, je le brise. Il me défait, je le casse. Il m'aide, je le soulève, tout plein de paix, tout de guerre, tout de haine, d'amour. Et exténué, gémis de sa voix et je gémis. Je ris et il rit et me regarde et je le regarde, me dit et je lui dis, et m'aime et je l'aime. Il ne s'agit pas d'amour, nous donnons la vie. Et il me demande, et je lui demande, et il me bat, et je le bats, et m'achève, et je l'achève. Poème d'amour d'une femme uruguayenne, enseignante à l'université, traductrice, critique littéraire, un tempérament Idea Villarino. Elle chante une passion folle, impossible, déjà pas. Déjà plus, déjà pas. Nous ne vivrons pas ensemble, je n'élèverai pas ton enfant, ne coudrai pas tes vêtements, ne te posséderai pas la nuit, ne t'embrasserai pas en partant, tu ne sauras jamais qui j'étais, pourquoi d'autres m'aimeront. Je ne réussirai pas à savoir pourquoi ni comment jamais, ni si c'était pour de vrai ce que tu disais qu'il y avait, ni qui tu étais, ni ce que j'étais pour toi, ni comment cela aurait été de vivre ensemble, de nous aimer, de nous attendre, d'être. Déjà tu n'es plus d'un jour à venir, je ne saurais pas où tu vis, avec qui, ni si tu te souviens. Tu ne m'embrasseras plus, comme cette nuit, jamais. Je ne reviendrai pas te toucher, je ne te verrai pas mourir. Alors tu vois, Bruno, il n'y a plus qu'à se laisser porter par le chagrin et sans faiblir. Hier soir, dans mes rêves, poignée de cendres, j'ai fait l'amour avec toi. Serein et exquis, avec toi qui depuis si longtemps est mort. Que fut la vie, que fut-elle, quelle pomme pourrie, quel rebut, quel déchet, si c'était une rose, si c'était un nuage doré et qui devait éclore léger dans l'air, si c'était une rose, si c'était une flamme heureuse, si c'était quoi que ce soit qui ne pesa pas, ne blessa pas, qui se contenta d'être une chose quelconque, quelconque, qui fût simple, simple.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes d'Idea Villarino.